Vendredi 6 octobre 2017. Et comme vous l'entendez, ce n'est pas Hélène Denis, mais bien François Brodeur qui vous livrera votre revue de presse dans le cadre des voies de service. Et ça commence dans quelques instants. Et puisqu'on peut changer d'animateur, mais qu'il est beaucoup plus difficile de faire varier des traditions, on commence tout de suite en se demandant, mais ciel, que s'est-il passé au travers de l'histoire un 6 octobre? Mathieu,
je me demandais si vous alliez y penser ce matin. Alors, le 6 octobre, comme nous sommes le premier vendredi du mois d'octobre, c'est la journée mondiale du sourire. Alors, la journée mondiale du sourire date depuis 1999. Elle a été inventée par un artiste de Worcester aux États-Unis, Harvey Ball, qui se trouve à être passé à la postérité en créant le fameux smiley en 1963. Donc, le gros visage jaune, deux yeux et un sourire, c'est lui.
Qui est devenu l'accompagnateur de beaucoup de messages sur les messageries.
En effet, avec ses frères et sœurs et ses nouveaux cousins maintenant qui prennent toutes sortes de formes. Mais dans l'histoire, le 6 octobre, en 1789, Louis 16 et Marie-Antoinette quittent Versailles pour les Tuileries à Paris. Nous avons l'ouverture du Moulin Rouge à Paris encore en 1889. En 1999, je viens de sauter 100 ans en fait. 1999, le protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est adopté. Le protocole a mené à des décisions impliquant différents États membres sur des sujets tels la violence domestique, le congé parental et la stérilisation. Voilà. En 1964, je recule un peu dans le temps, je m'étais mêlé dans ma feuille, inauguration à Charlottetown du Centre des arts de la Confédération. Pauline Julien refuse d'y chanter devant la reine Élisabeth II. En 1979, Jean-Paul II est le premier pape à être reçu à la Maison-Blanche. Fait divers ou fait comique. En 1991, Liz Taylor marie son mari numéro
5
7 Elle était rendue à 7.
7 Serial Weather.
Je sais pas. Serial Weather, ouais. Je pensais que c'était son nom. 1992, Québec adopte une carte d'assurance maladie montrant la photo de l'assuré. On annonce la découverte de la première exoplanète en 1995, 51 Pegasi B. Par les astrophysiciens Michael Mayer et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève. En 2008, le prix Nobel de médecine est attribué à François-Luc Montagnier et Françoise Barry-Sinoussi, ainsi qu'à l'Allemand Harald zu Hausen pour les travaux ayant respectivement abouti à la découverte du virus du sida et le virus provoquant le cancer du col de l'utérus. Et pour ce qui est des naissances, 6 octobre 1897, mais en 1887, Le Corbusier, architecte et urbaniste franco-suisse. Roland Garros, 1888, militaire français. Et en 1949, Nicolas Perrac, le chanteur français, est né. Ben, un petit dernier, James McGill, qui est né à Glasgow, donc le commerçant, est né un 6 octobre 1744. Et pour ce qui est des décès, en 1989, nous quittait Betty Davis, actrice américaine, et le poète québécois Gilles Hainaut nous quittait en 1996, lui qui était né en 1920. Voilà, mon cher François, c'est ce qui conclut les
films. Oui, et je vous rappelle que pour Roland Garros, il s'agit d'une première carrière, le statut de militaire, avant de devenir un tournoi de tennis mondialement couru. On enchaîne immédiatement avec les grands titres de la presse et on commence en se demandant si la police s'inquiète de la montée de l'extrême droite. Extrême droite qu'on a beaucoup vue au cours de l'été en raison des réfugiés qui passaient nos frontières et qui a manifesté de manière assez bruyante. Merci. Alors, le titre répond probablement à la question. Un article de Gabriel Duchesne, « Extrême droite, Québec craint les loups solitaires ». Faut-il avoir peur de l'extrême droite? Oui, selon deux récents rapports internes du ministère de la Sécurité publique du Québec que la presse a obtenus dans lesquels le gouvernement prévient que des loups solitaires pourraient commettre des actes xénophobes violents dans la province. On y apprend aussi que la sécurité publique surveille de près certains groupes et individus dits d'intérêt associés à l'extrémisme de droite. Québec montre du doigt les attentats terroristes perpétrés en Europe en 2015 et en 2016 et la politique d'ouverture du gouvernement fédéral au sujet de l'accueil de réfugiés syriens pour expliquer le regain de popularité du mouvement dans la province. L'un des documents sur lesquels nous avons mis la main est un état de la situation commandé en décembre 2015 dans la foulée de l'accueil de réfugiés syriens au Québec. Le deuxième, intitulé « Extrémisme de droite au Québec, principaux constats », a été rédigé quelques jours à peine après l'attentat qui a coûté la vie à 6 personnes à la Grande Mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Bien que largement caviardé, les deux rapports donnent une bonne idée des craintes que suscitent les sympathisants de ce courant idéologique auprès du gouvernement et de toute l'attention que leur porte le ministère de la Sécurité publique depuis quelques années. Si le rapport de 2017 précise que la principale menace pour le Canada actuellement demeure celle que représentent les extrémistes violents qui adhèrent à l'idéologie extrémiste véhiculée par des organisations terroristes comme Al-Qaïda et le groupe armé État islamique, Québec reconnaît que les loups solitaires de l'extrême droite posent eux aussi un risque. On ne peut exclure la possibilité que des actes xénophobes violents soient commis par des individus adhérents aux idées d'extrême droite et agissant seuls, lit-on. En général, on constate que ceux qui adhèrent aux idéaux véhiculés par l'extrême droite sont principalement actifs sur l'Internet, soit les médias sociaux ou encore à l'intérieur de forums de discussion, poursuit le texte. Ils protestent principalement contre la place grandissante que prendrait la religion musulmane dans notre société et l'insécurité culturelle qu'elle engendrerait. On découvre d'ailleurs que divers groupes et personnes précises sont dans la ligne de mire de Québec. Dans le document de 2015, la sécurité publique répertorie ce qu'elle décrit comme des groupes d'intérêt qui ont réagi négativement à l'arrivée de réfugiés syriens au Québec et qui suscitent une préoccupation. Elle dresse aussi une liste d'individus d'intérêt qui ont tenu des propos désobligeants ou posé des actions répréhensibles à l'égard des réfugiés syriens et de la communauté musulmane. Le contenu complet de ces deux listes, qui font en tout plus d'une page et demie, a été caviardé. Cela dit, les noms de Pegida Québec et du Front national du Québec sont mentionnés ailleurs dans le document, dans un recensement d'incidents à caractère haineux. Pour Maryse Potvin, sociologue et experte des questions de racisme et de rapport ethnique à l'UQAM, le risque qu'un adepte de l'extrême droite passe à l'acte est bien réel. Le loup solitaire, ça peut être une personne plus fragile qu'une autre qui va ressentir davantage l'exclusion ou la victimisation de soi et qui a besoin de confirmer son rapport de pouvoir à l'autre, explique-t-elle. Et au Québec, le contexte est particulièrement favorable à rendre les gens plus fragiles. Il y a un sentiment un peu plus généralisé de vivre un peu à l'aube d'une catastrophe, croit la professeure qui souligne autant le contexte social ici que la série d'attentats survenus en Europe. C'était la grosse nouvelle hier. Énergie Est ne sera pas. On renonce en raison des prix du pétrole principalement, mais la compagnie a dit que c'est en raison des nouvelles normes d'évaluation environnementale qu'on entendait lui imposer. Francis Veil, lui, de La Presse, nous dit « Attention, ça va nous coûter cher politiquement. » De grosses répercussions politiques. Au Québec, l'impact de l'abandon d'Énergie Est ne sera pas économique, ou si peu. Il sera surtout politique. Dans l'Ouest canadien, d'aucuns attribuent l'échec du projet à l'opposition du Québec et cette grogne, qui dure depuis 3 ans, continuera d'envenimer les relations du Québec avec l'Ouest pour des années. Hier, dès l'annonce de TransCanada, ce mécontentement s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Le maire de Montréal, Denis Coderre, est ciblé, lui qui s'était fermement opposé au projet. Pourquoi aider Bombardier et pas Énergie S, se demande-t-on dans l'Ouest. Ce sentiment anti-Québec, je l'ai bien senti lors d'un séjour à Cuba au printemps 2016, quelques semaines après le non de Coderre. À la fin d'une des journées, là de la plage, nous nous sommes rendus au grand spa du complexe hôtelier où se trouvait déjà un couple. Tiens, des Albertains. How are you? En constatant que j'étais Québécois, l'homme du couple, dans la soixantaine, s'est fermé comme une huître, me toisant du regard. L'atmosphère est devenue si glaciale que l'eau du spa m'est soudain apparue nettement plus tiède. Exit le spa. Pour le Québec, cela dit, l'impact économique de l'abandon d'Énergie-Est ne sera pas majeur. Au terme de son projet, TransCanada estimait avoir besoin de seulement 33 employés permanents au Québec. Certes, 1500 emplois directs auraient été créés pour la construction au Québec, mais pendant 4 ans seulement. Quant aux impôts annuels au Québec, ils auraient été somme toute plutôt faibles. Non, l'impact, il sera surtout politique. D'ici 2019, les provinces doivent entamer des discussions avec le fédéral sur les paramètres du programme quinquennal de péréquation. Dans le contexte de l'abandon d'Énergie-Est, vous pouvez être assuré que l'Ouest fera tout ce qui est possible pour assécher le Québec. L'Alberta et la Saskatchewan, faut-il le rappeler, ne touchent pas un sou de péréquation du fédéral malgré la crise budgétaire qui y sévit. Pendant ce temps, le Québec engrange environ 11 milliards par année. Hier, le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a justement refait le lien péréquation-pétrole et fustigé Trudeau et Coderre. Le plus malheureux, c'est que la répercussion négative contre le Québec ne sera pas méritée. En effet, ce n'est pas tant le Québec ou même les environnementalistes qui ont forcé TransCanada à acheter l'éponge que des paramètres économiques incontournables, comme le prix du pétrole. Bien sûr, la levée de bouclier des environnementalistes a retardé le projet. Au départ, la construction du pipeline devait commencer cette année, rappelons-le. Sans cette opposition, la conduite de 4600 km aurait peut-être déjà commencé à être enfouie sous terre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le prix déprécié du pétrole, de même que l'autorisation de 2 autres projets de pipeline qui ont changé la donne. Peu après son élection, Donald Trump a donné le feu vert au projet Nord-Sud Keystone XL, pipeline de TransCanada. Et dernièrement, le réseau Trans Mountain vers le Pacifique a reçu l'assentiment des autorités. Du coup, le pétrole extrait des sables bitumineux n'a plus besoin de nouveaux tuyaux pour être acheminé puisque la capacité des 2 autres projets sera amplement suffisante. Un 3e pipeline aurait pu être nécessaire pour absorber le pétrole des futurs investissements. Le hic, c'est que ces projets ne sont pas prêts de voir le jour, avec un prix du baril albertain qui se maintient sous les $40 américains, loin du seuil de rentabilité. Hier, d'ailleurs, les investisseurs en bourse ont jugé que l'abandon du projet était une bonne nouvelle pour TransCanada. Le titre s'appréciait de 1,1% à $61,55 malgré la charge d'1 milliard qui sera passée au résultat du 4e trimestre. Tôt ou tard, il faudra bien faire des choix difficiles. Si l'on veut atteindre les cibles mondialement partagées de l'accord de Paris sur le climat, il faudra à terme diminuer l'extraction de pétrole, et d'abord le pétrole le plus sale. L'objet de Paris est de réduire de 10 à 30 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 afin de limiter le réchauffement et minimiser ses conséquences dramatiques. Comme quoi, voyez-vous, on a peut-être rendu un fier service à TransCanada en s'opposant à son pipeline, puisque ça a décalé le projet et ça l'a empêché de commencer la construction de quelque chose qui n'aurait pas été rentable. Un mot encore sur le réseau électrique métropolitain, le nouveau train léger de Montréal, un texte de Maxime Bergeron, rentabilité du REM, Ottawa garde secrète une étude. Jusqu'à quel point l'investissement fédéral de 1,3 milliard de dollars dans le REM sera-t-il rentable? Impossible de connaître les prévisions de profit ou de pertes d'Ottawa, puisque le gouvernement refuse de dévoiler la quasi-totalité d'un document de 613 pages sur le sujet. Ottawa a mandaté la firme torontoise Blair Franklin en avril dernier pour préparer un volumineux rapport sur un investissement éventuel dans le réseau électrique métropolitain. Le gouvernement fédéral a confirmé 2 mois plus tard sa participation dans le colossal projet de train électrique automatisé de la Caisse de dépôt, évalué à 6 milliards au total. L'analyse financière qui a guidé cette décision reste toutefois inconnue. Le ministère des Finances a invoqué 2 articles de la loi sur l'accès à l'information pour garder secrète plus de 99% de l'étude Blair Franklin. La publication de ce rapport portera atteinte à la position concurrentielle du gouvernement et pourrait entraver les négociations, a fait valoir à la presse un porte-parole du gouvernement.
Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Il faut les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses au temps, au temps, au temps, où tu n'auras plus d'onglet, où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés, les quatre ailes de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui le sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle, il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire devant, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire devant, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'autant, où tu n'auras plus d'onglet, où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés, les quatre ailes. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'autant, où tu n'auras plus d'onglet, où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner. Les routiers du haut de leur cabine les traitent de femmes au volant, mais en secret ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant que temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'au temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers.
Voilà, c'était San Serino et sa chanson « Les embouteillages ».
On passe immédiatement aux pages du Devoir. Le Devoir qui nous dit qu'on va peut-être être invité à un mariage sous peu. C'est du moins ce qui ressort d'un texte de Marco Belair Cirino. Fiançailles entre l'Option nationale et Québec solidaire. Le chef d'Option nationale, Sol Zanetti, accepte de s'aborder le parti politique qu'il dirige, fondé en 2011 par Jean-Martin Haussan, au profit de Québec solidaire, mais non sans condition. Les délégués de QS, Québec solidaire, donc, devront notamment garantir que le parti né de la fusion entre l'Option nationale et Québec solidaire soumettra à la population québécoise un projet de constitution d'un Québec indépendant au cours d'un premier mandat. Telle est la pièce maîtresse de l'entente de principe dévoilée par les états-majors d'Option nationale et de Québec solidaire jeudi. Si les délégués des deux partis politiques y donnent leur bénédiction, Option nationale prendra la forme d'un collectif au sein d'un parti unifié qui gardera le nom de Québec solidaire mais adoptera une nouvelle identité visuelle. Non seulement nous nous retrouverons dans une famille politique élargie ayant un engagement clair et courageux envers l'indépendance, mais nous aurons ensemble rapproché le mouvement indépendantiste de son objectif en faisant passer la patrie avant les partis, a déclaré M. Zanetti lors d'une conférence de presse sur la colline parlementaire jeudi. Pour y arriver, Québec solidaire devra s'engager à mettre sur pied une assemblée constituante dont les membres auront clairement pour mandat d'élaborer la constitution d'un Québec indépendant. Les délégués de Québec solidaire s'étaient pourtant entendus pour leur donner carte blanche. Ils pourront élaborer la constitution d'un Québec pays ou encore d'un Québec province, convenait-il, lors de leur congrès de mai 2016. Monsieur Zanetti avait déploré cette position trouble de Québec solidaire qui trahit, selon lui, son manque d'assurance pour notre projet. Plusieurs solidaires craignent que les personnes réfractaires au projet de pays boudent les travaux de l'Assemblée constituante si ces conclusions étaient écrites à l'avance. Nos membres décideront si oui ou non ça vaut le coup. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut rappeler que le débat à l'intérieur de l'Assemblée constituante ne serait pas un débat entre indépendantistes, a fait valoir le co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé jeudi. Option nationale demande aussi à Québec solidaire de présenter un cadre financier prévoyant les ressources nécessaires au processus d'accession à l'indépendance, ainsi qu'un portrait financier démontrant la viabilité financière d'un Québec indépendant. Le tout est élaboré en consultation avec des économistes désignés par Option nationale, précise l'entente de principe. Les militants d'Option nationale veulent également voir le parti représenté à l'Assemblée nationale par Amir Kadir, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois condamner le régime colonial canadien sur le même ton que le néolibéralisme. Le Québec bashing sera dénoncé et combattu par le Parti unifié, peut-on aussi lire dans le document. Les délégués de Québec solidaire devront modifier leur programme politique en ce sens lors de leur prochain congrès qui est prévu en décembre prochain. L'entente de principe est à prendre ou à laisser dans sa forme actuelle, a précisé son principal promoteur, Gabriel Nadeau-Dubois. On est convaincu que cette entente-là est historique parce qu'elle est juste et qu'elle saura rassembler nos deux formations politiques, a martelé le co-porte-parole. Le chef d'Option nationale a également obtenu la garantie que le collectif Option nationale bénéficiera de sièges désignés au comité de coordination de Québec solidaire, qui a été qualifié de « politburo » par le chef péquiste Jean-François Lisée au printemps dernier. D'autre part, M. Zanetti pourra briguer les suffrages, sous la bannière de Québec solidaire dans l'une des 9 circonscriptions considérées comme les plus favorables par le parti, sauf Mercier, Gouin et Sainte-Marie-Saint-Jacques. M. Zanetti, qui est résident de la ville de Québec, s'est bien gardé jeudi de pointer la circonscription qu'il convoite en vue du scrutin de 2018. Toujours dans les pages du Devoir, Hélène Buzetti nous apprend que le Bloc québécois ressuscite une politique de Jean Chrétien. C'est pas tous les jours la fête, alors on va le signaler. Une subvention de 2 $ par vote obtenue à la précédente élection compenserait la réforme électorale avortée. C'était un titre, c'était en grosse pour ça, je l'ai raté, voilà. Le Bloc québécois veut ressusciter l'héritage de Jean Chrétien en restaurant le financement public des partis politiques fédéraux. Certains députés de Justin Trudeau trouvent l'idée bonne parce qu'elle permettra de valoriser tous les votes, même ceux recueillis par des formations marginales, un peu comme l'aurait fait la défunte réforme électorale. Le projet de loi bloquiste présenté cette semaine réinstaurerait le versement d'une subvention annuelle aux partis politiques fédéraux correspondant à 1,75 $ par vote obtenu au dernier scrutin. Une telle subvention a été abolie par les conservateurs de Stephen Harper. Le projet de loi abaisserait également le plafond des dons annuels permis par électeur de 1 500 $ à 500 $ par année. On n'a pas réinventé la roue, on a ramené l'héritage libéral, c'est-à-dire le projet de loi qui avait été adopté sous Jean Chrétien, fait valoir le député Michel Baudrillard, parrain du projet de loi. Puisqu'il ne compte que 10 députés, le Bloc québécois a priori peu de chances de faire adopter sa proposition législative. Sauf qu'au moins 2 députés libéraux voient d'un bon œil le retour d'un financement étatique des partis. L'élu de la région de Montréal, Alexandra Mendez, estime que ressusciter cette mesure pourrait compenser en quelque sorte le fait que le gouvernement Trudeau a renoncé à sa promesse de réforme électorale. C'est une autre façon de donner de la valeur au vote, dit-elle au Devoir. Les partis sauraient qu'ils ont une représentation, ne serait-ce que financière, de leur poids électoral. Ce n'est plus le cas. et cela rend le désir de la proportionnelle plus évident. Son collègue de Winnipeg, Robert Falcon Wallet, note quant à lui que certaines communautés, comme la sienne, sont moins riches et pas nécessairement en mesure de faire des dons annuels à leurs partis favoris. C'est extrêmement important, dit-il. C'est un moyen d'assurer que tous les partis politiques, même le Parti communiste, le Parti vert ou le NPD, peuvent continuer de fonctionner. Ça encourage une diversité d'opinions. Madame Mendes parle du financement étatique comme de son dada. Elle dit avoir abordé le sujet avec la ministre responsable des institutions démocratiques, Karina Gould. Interceptée hier, celle-ci ne s'est pas opposée d'emblée à l'idée. Je vais regarder le projet de loi et commenter en temps et lieu. Amélie Pineda du Devoir nous apprend, c'est le titre, qu'Ottawa versera 800 millions de dollars à des Autochtones lésés durant la rafle des années 60. Le gouvernement fédéral annoncera ce vendredi une entente avec des Autochtones victimes de la rafle des années 60. Il confirmera alors le versement de compensation totalisant plusieurs centaines de millions de dollars, a appris le Devoir. L'entente qui sera dévoilée par la ministre des Relations aux Couronnes autochtones et des Affaires du Nord, Caroline Bennett, toucherait environ 20 000 victimes. Durant les années 60, des milliers d'enfants autochtones à travers tout le pays ont été enlevés à leurs familles pour être placés dans des familles adoptives ou d'accueil non autochtones en vertu d'une politique gouvernementale. Certains jeunes avaient même été vendus à des familles à l'étranger. La presse canadienne a rapporté jeudi que l'entente vise à régler 16 poursuites intentées pour des torts subis par ces jeunes. Elle inclurait un paiement allant de 25 à 50 000 $ pour chaque plaignant pour une somme maximale totale de 750 millions de $. On fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté de la dite pause pour les pages du Journal de Montréal.
Je t'aimerai dans le jardin, sous le grand cèdre, au doux printemps, quand dans les arbres monte la sève. Je t'aimerai comme un saumon remonte la rivière. Wananiche, je t'offrirai la douce rose et de ma chair. Aime-moi comme le vent gonfle la voile, et dans tes yeux naîtront la lune et les étoiles. Aime-moi de tout ton cœur. Et nous
Ah, un de mes plaisirs coupables pour ne presque pas dire inavouable, c'était René Lucie qui nous chantait « Je t'aimerai ».
Journal de Montréal, où Charles Le Cavalier nous apprend, c'est le titre de son article, que Heurtel dit non à la création d'un comité totalement indépendant du politique pour diriger le Bureau d'audience publique en environnement. David Heurtel a ignoré l'avis du BAP en choisissant un mode de nomination qui lui donne les coudées franches pour nommer les dirigeants du chien de garde environnemental. Selon des documents consultés par le journal et obtenus par Greenpeace, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a recommandé au ministre de mettre en place un comité totalement indépendant du politique pour sélectionner les futurs membres de l'organisme. On y propose la création d'un comité formé du président du BAP, d'un représentant du public désigné par lui et d'un retraité de la fonction publique. Québec a rejeté du revers de la main ces conseils et a fait adopter un règlement sans consultation prévoyant que le comité de sélection soit contrôlé par le gouvernement. Cette décision est fortement critiquée par les groupes environnementaux et les partis d'opposition. Dans la situation actuelle, le gouvernement pourrait nommer un pantin, a déploré Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace. L'organisme, comme le Parti québécois, la CAQ et Québec solidaire, propose plutôt que le président et le vice-président du BAP soient choisis par l'Assemblée nationale, comme le vérificateur général, par exemple. Nature Québec est aussi de cet avis. C'est un peu curieux et étonnant de voir qu'on n'a absolument pas tenu compte de cet avis. On ne voulait absolument pas que le BAP soit mêlé à la décision du ministre. Ça démontre un manque de confiance, a noté Christian Simard, son directeur général. Il déplore que la population soit maintenant devant le fait accompli. Ça fait cafouillage. Y a-t-il moyen de remettre le dentifrice dans le tube? Ce serait souhaitable. Il y aurait moyen de compléter cette réforme faite à la sauvette, a indiqué M. Simard, qui souhaite une dépolitisation du processus de nomination. Jean-François Cloutier, Journal de Montréal, lui, il nous apprend que le fondateur du Bloc Pot aurait enfumé le fisc. Eh oui. L'activiste et fondateur du Bloc Pot, Marc-Boris Saint-Maurice, se fait réclamer 1,4 million de dollars par Revenu Québec pour des sommes non déclarées et des taxes impayées en lien avec la vente de cannabis. Saint-Maurice a été un militant de la première heure pour la légalisation du pot au Canada. Cette fois, c'est sur des questions fiscales qu'il entend se battre avec Revenu Québec devant les tribunaux. Celui qui a déjà été un chanteur du groupe punk culte québécois Grimmskong, dans les années 90, pas 60, oh ça va mal, s'est récemment opposé à de nouvelles cotisations que le fisc lui a fait parvenir. Revenu Québec allègue que le coloré personnage n'a pas déclaré tous les revenus qu'il tirait de la Fondation Marijuana. Cette fondation, dont il est le président, exploite le Centre Compassion, un organisme qui vend du cannabis thérapeutique dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal. Le demandeur aurait déclaré à titre personnel tous les revenus d'entreprise de la Fondation Marijuana, de même qu'il en a déduit les dépenses afférentes, est-il allégué dans des documents de cour que nous avons consultés. Selon Revenu Québec, l'ex-musicien devenu politicien aurait omis de déclarer dans ses impôts un revenu d'entreprise de 722 835 $ provenant du Centre Compassion pour l'année 2012. Selon les documents, il aurait aussi omis de déclarer ses revenus locatifs totalisant environ 90 000 $ pour la période de 2008 à 2011. Par ailleurs, selon le fisc, Saint-Maurice aurait réclamé des déductions fiscales basées sur des dépenses totalisant 3,3 millions qu'il n'aurait pas justifiées. Vous n'avez pas soumis les pièces justificatives à l'appui de ces dépenses, allègue le fisc. Des pénalités et des intérêts ont été ajoutés sur les montants réclamés. Le fisc allègue également que la TPS et la TVQ n'ont pas été perçues sur du cannabis vendu, selon les documents. Dans sa demande en appel de cotisation fiscale, Saint-Maurice dit qu'il semblerait également que des questions relatives à la TPS-TVQ pour les années en cause devront être incluses. Des montants de taxes de 482 000 $ sont ainsi réclamés par le fisc. Nous avons joint Saint-Maurice au téléphone en début de semaine et il a dit ne pas pouvoir commenter tant que l'affaire était devant les tribunaux. Il a précisé que la cause est complexe et qu'il a une bonne défense. On va faire valoir notre point de vue en temps et lieu, a-t-il dit. Dans sa demande en appel, Saint-Maurice argue qu'une saisie policière l'empêche de produire toute la documentation réclamée.
Changer le monde, changer d'allure et de coiffeur. Je vais me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. J'ai changé le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je vais faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire. Faire le contraire, je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou cochon, je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de somnambule ou d'arachis? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses, je vais changer le monde.
On passe au volet un peu plus léger de cette émission. Enfin léger, il faut vous dire vite. Eh bien, sachez qu'au Japon, on a encore repoussé les limites du professionnalisme puisque l'agence France-Presse rapporte qu'une journaliste est morte après 159 heures supplémentaires en un mois. La chaîne de télévision publique japonaise NHK s'est excusée vendredi auprès des parents d'une de ses journalistes mortes d'un malaise cardiaque alors qu'elle venait d'accumuler 159 heures supplémentaires en un mois. Miroi Sado, 31 ans, qui couvrait l'actualité politique à Tokyo, avait été retrouvée morte dans son lit en juillet 2013. Selon les médias, elle tenait son téléphone portable serré dans une main. Un an après, les autorités japonaises avaient conclu que sa mort était due à un nombre excessif d'heures supplémentaires. Elle n'avait eu que deux journées de repos dans le mois précédant son décès. La NHK a fini par rendre l'affaire publique 4 ans plus tard sous la pression des parents de la jeune femme qui demandaient que des mesures soient prises afin d'éviter de nouveaux cas. Notre président a rencontré les parents chez eux ce matin et a demandé pardon, a déclaré vendredi à l'AFP le porte-parole de la NHK. Cette affaire met à nouveau en lumière le problème de karoshi, ou mort par excès de travail, dans un pays connu pour ses journées de labeur interminables. Elle est gênante pour la NHK, qui a fait ouvertement campagne contre cette pratique. La chaîne avait largement couvert des drames identiques survenus dans d'autres entreprises, notamment le suicide en 2015 d'une jeune femme chez le géant de la publicité Dentsu, qui avait travaillé plus de 100 heures supplémentaires en un mois. Allez, je vous le dis rapidement parce que je n'arrive plus à le taire et je ne vous le lirai pas puisque je vais vous le dire. Le Canadien joue actuellement pour 1000. Le Canadien a remporté tous ses matchs en saison régulière jusqu'à maintenant. Bon, évidemment, il n'y en a eu rien qu'un, vous allez me dire, il l'a remporté en prolongation. Mais c'est pas grave, Jonathan Drouin l'a mis dedans le but. Alors voilà, donc le Canadien joue pour 1000. Une situation jugée scandaleuse. Et de quoi parle-t-on? Ben, on parle d'un témoin peut-être un peu trop zélé aux yeux d'une juge. La juge Doris Thibault du tribunal de la jeunesse a dénoncé en pleine cour le fait qu'un enquêteur fédéral se soit déplacé de Montréal uniquement pour la comparution d'une durée d'environ une minute d'un mineur accusé d'avoir pointé un laser envers un avion CF-18 de la base de Bagotville. La magistrate estime qu'il s'agit d'une situation scandaleuse et d'une dépense exagérée. Jeudi matin, le dossier du mineur, que nous ne pouvons identifier en raison de son âge, a été amené au palais de justice de Chicoutimi. L'affaire en était à la toute première étape des procédures, soit celle de la comparution, une affaire d'environ 1 à 2 minutes. Juste avant d'entreprendre l'affaire, le procureur fédéral a demandé à la juge Thibault la permission de faire entrer l'enquêteur au dossier. Il arrivait de Montréal. Pourquoi l'enquêteur serait-il ici pour une comparution d'au plus 3 minutes? A demandé la juge. Après avoir appris qu'il s'agissait des procédures habituelles pour les représentants du gouvernement fédéral, la juge a fait entrer l'enquêteur. Que faites-vous ici? Vous êtes parti de Montréal pour assister à une comparution. Je considère cette situation comme scandaleuse. Il s'agit d'une dépense inutile et injustifiée. On peut bien trouver que nous payons beaucoup trop d'impôts annuellement, a répété la juge lors d'un entretien avec le quotidien de Chicoutimi. Il a eu beau me dire qu'il était à Bagotville mercredi, il aurait pu retourner chez lui après. Là, nous avons payé une chambre d'hôtel et des repas. Je lui ai ordonné de ne pas se représenter ici avant la tenue du procès, a ajouté la juge Thibault. Et sur le fond de l'affaire, sachez-le, il s'agit quand même d'un cas assez exceptionnel où des jeunes dans un pit de sable, il y en a un qui avait un pointeur laser, et il l'a pointé sur un chasseur-bombardier CF-18 qui se préparait à atterrir. Et ça, quand vous êtes dans un chasseur-bombardier, ça déclenche toutes les alarmes de l'appareil, puisque ça pourrait être un système de guidage de missiles. Alors, c'est comme automatique. Le pilote, lui, a déclenché ses contre-mesures, donc a localisé les jeunes. Heureusement, il ne les a pas bombardés, mais a plutôt transmis leurs coordonnées à la police, ce qui a permis l'arrestation. En Ukraine, il y a un chimpanzé qui a piqué une crise de jalousie, ce que rapporte l'agence QMI. Il n'y a pas que les humains qui peuvent faire preuve de jalousie. Un gardien de zoo au Feldman Echo Park Zoo à Lysné, en Ukraine, l'a appris à ses dépens après que Juliette, une chimpanzée, lui ait donné un bisou à travers une vitre, entraînant une crise de jalousie de son petit ami, Roméo, évidemment. Empreint d'une rage maladive, le chimpanzé Roméo, qui n'a pas apprécié le geste d'amitié de celle qu'il considère comme sa petite amie à l'endroit de Sergueï, le gardien qui prend soin d'eux depuis 6 ans, il s'est dirigé vers Juliette pour la ruer de coups avec ses pattes, a rapporté le Daily Mail. Le gardien est alors entré dans la cage pour séparer les deux singes, mais Roméo n'a pas apprécié et il a retourné Sergueï sur le sol avant de le mordre à la main gauche et à une oreille. « Il lui manque des bouts d'oreilles et des doigts », a mentionné Andriy Kosachenko, porte-parole du zoo. Les chimpanzés sont des animaux très dangereux, avec une mâchoire très forte, qui peuvent facilement arracher de la chair, a indiqué le gardien du zoo. « Je n'aurais pas dû entrer dans la cage, mais ça fait 6 ans que je prends soin d'eux, j'ai de l'affection pour eux. » Quand Juliette m'a embrassé par la vitre, Roméo est devenu fou. Je pense qu'il m'a attaqué par jalousie. Alors, on se prépare au G7 qui se tiendra donc dans Charlevoix, on le sait, en juin prochain. Où atterriront les chefs d'État? À Québec, à Baie-Saint-Paul? Eh bien non, ils atterriront sur la base de Bagotville, ce que rapporte Normand Boivin dans les pages du quotidien. Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron et les autres chefs d'État du G7 fouleront le sol saguenay en juin prochain avant de se rendre au manoir Richelieu à Pointe-au-Pic à l'invitation du premier ministre Justin Trudeau. En effet, pour des raisons de sécurité, l'organisation du sommet des 7 pays les plus industrialisés qui se tiendra les 8 et 9 juin a déterminé que Bagotville était l'aéroport le plus approprié pour l'arrivée des principaux chefs d'État en raison de la présence des militaires et de sa proximité avec Charlevoix, a confirmé en exclusivité au quotidien la directrice des communications du sommet, Alexandra Young. Une fois arrivée en sol saguenéen, Mme Young ne pouvait confirmer quels moyens de transport utiliseront les chefs d'État américains, britanniques, allemands, français, italiens et japonais. Ce pourrait être par la voie des airs, en hélicoptère ou même avec un jet privé capable d'atterrir sur la petite piste de l'aéroport de Saint-Irénée ou par la route, une procédure qui restera déterminée. Il faut savoir que ces gens-là n'arrivent pas seuls. Ils viennent avec leurs conjoints, leur entourage et sont accompagnés de membres de la presse de leur pays. On peut compter jusqu'à 2000 journalistes qui couvrent le G7, a ajouté Mme Young, laissant entendre que tout ce beau monde ne pourrait pas utiliser une navette aérienne. Avertissement, et c'est un cas grave, la saison commence, alors faites attention. Cheryl Hubé-Lacquer de la presse canadienne nous apprend que regarder un match de hockey peut troubler le système cardiovasculaire. C'est le titre. Alors que les Canadiens ont amorcé leur saison, certains amateurs de hockey ont une bonne raison de vouloir modérer leur enthousiasme. Une nouvelle étude laisse entendre que regarder son équipe favorite, que ce soit à la télévision ou en personne, peut avoir un grand effet sur le système cardiovasculaire et même doubler le rythme cardiaque dans certains cas. L'étude de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui a analysé les battements de cœur de partisans des Canadiens pendant des matchs, révèle que le rythme cardiaque des spectateurs qui regardent une partie à la télévision augmente en moyenne de 75 %, tandis que celui de ceux qui assistent aux matchs sur place s'accélère de 110 % en moyenne. Notez bien qu'un match de Maple Leafs, c'est probablement beaucoup moins. L'intensité de la réponse cardiaque a le potentiel de déclencher un événement cardiovasculaire chez des individus susceptibles, a indiqué le chercheur principal de l'étude, le Dr Paul Carey. Les auteurs croient que cette étude, publiée jeudi dans le Journal canadien de cardiologie, est la première à se pencher sur les effets du stress émotionnel sur les partisans du sport national du Canada. L'étude est également unique dans sa genèse puisqu'elle a été pensée, conçue et menée en grande partie par la fille de 13 ans du Dr Carey, Léa, et sa camarade de classe, Roxane Barin. Les deux enfants jouent au soccer dans les équipes qui s'opposent à d'autres formations à Montréal et ailleurs au Québec. Elles se sont aperçues que pendant leur match, leurs parents vivaient un grand stress dans l'assistance et elles se sont demandé quel était l'impact de celui-ci sur leur cœur. Elles ont mentionné leur idée au Dr Carey, qui leur a offert l'appui de l'Institut de cardiologie afin de s'assurer que l'étude soit menée de la façon la plus rigoureuse possible. Les chercheurs ont recruté 20 partisans du Canadien de Montréal en bonne santé, âgés de 23 à 63 ans, et ont demandé à la moitié d'entre eux de regarder des matchs de la saison régulière à la télévision en portant un moniteur cardiaque. L'autre moitié portait le moniteur, mais regardait les matchs dans l'amphithéâtre. Les chercheurs ont découvert que le rythme cardiaque des deux groupes s'accélérait, mais que ceux qui étaient plus près de l'action avaient un rythme plus élevé de 10 battements par minute en moyenne. Et voilà qui répond à la question « Pourquoi acheter encore un billet? » Néonicotinoïdes, ça c'est le mot qu'on connaissait absolument pas il y a deux ans et qui est devenu, je dirais pas à la mode, mais oniproscrit, c'est le mal. En fait, c'est la substance qui enrobe certaines semences et qui est destinée à les protéger contre des parasites. Eh bien, sachez que les néonicotinoïdes ont un lien direct avec l'effondrement des ruches et des colonies d'abeilles. Cette fois, est-ce qu'on peut se demander, le Canada est-il visé? La réponse, c'est malheureusement oui. Des pesticides néfastes aux abeilles présents dans 75 % du miel mondial, et ça vient de Kerry Sheridan de l'agence France-Presse. Des traces de pesticides toxiques pour les abeilles ont été détectées dans 75 % du miel produit dans le monde entier, suscitant l'inquiétude pour la survie de ces pollinisateurs cruciaux pour l'agriculture. Les concentrations relevées dans 198 échantillons de miel produits sur toute la planète, y compris 7 échantillons canadiens qui se sont avérés positifs, ne sont pas considérées comme dangereuses pour l'homme. Elles sont en effet inférieures au plafond autorisé par l'Union européenne, selon l'étude publiée jeudi dans la revue Science. Après avoir constaté que 34 % des échantillons contenaient des concentrations de néonicotinoïdes connus pour être nocifs aux abeilles, les scientifiques ont prévenu qu'une exposition chronique à ces substances pesticides menaçait la survie de ces petits insectes volants. Les abeilles pollinisent les plantes tout en butinant le nectar des fleurs qui s'accumule dans la ruche pour former l'épais miel. Elles interviennent dans la pollinisation de plus de 90 % des 107 plus importantes cultures sur Terre, mais ces dernières années, elles succombent au syndrome dit d'effondrement des colonies d'abeilles. Ce mal mystérieux entraîne la disparition ou la mort d'essaims entiers. Ces découvertes sont alarmantes, a estimé Chris Conley, un expert en neurobiologie de l'Université de Dundee, auteur d'un article accompagnant la publication de l'étude. Les niveaux relevés sont suffisants pour affecter les fonctions cérébrales des abeilles et pourraient entraver leur habilité à trouver de la nourriture et à polliniser nos cultures et notre végétation, a-t-il mis en garde. Les néonicotinoïdes ont été qualifiés de facteurs essentiels du déclin mondial des abeilles. Leur utilisation a été en partie interdite par l'Union européenne en 2013. Les échantillons collectés en Europe dans le cadre de l'étude l'avaient en grande majorité été avant l'entrée en vigueur de cette interdiction, a signalé M. Conley. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour apprécier l'efficacité de l'initiative européenne. Les scientifiques ont concentré leur analyse sur les 5 types de néonicotinoïdes les plus utilisés, acétamipride, clotinidine, imidacloprid, thiaclopride et thiamethoxane. Apparus au milieu des années 90, ces pesticides dérivent de la structure chimique de la nicotine et s'attaquent au système nerveux des insectes. Au total, 75% de tous les échantillons de miel contenaient au moins un néonicotinoïde, selon cette étude pilotée à l'Université suisse de Neuchâtel. Sur ces échantillons contaminés, 45% en contenaient au moins 2 et 10% 4 ou 5. La fréquence de contamination la plus élevée a concerné les miels d'Amérique du Nord, 89%, devant l'Asie, 80%, l'Europe, 79%, l'Amérique du Sud a présenté la plus faible à 57%. Politique municipale, le sang va probablement couler aux éboulements dans la campagne où Pierre Tremblay affronte Pierre Tremblay. C'est ce que rapporte Yann Bussière du Soleil. Même si l'humoriste Jean-René Dufort leur a fait un clin d'œil à l'émission Infoman, la lutte à la mairie des éboulements entre le maire sortant Pierre Tremblay et le conseiller municipal qui se nomme aussi Pierre Tremblay est loin d'être une blague. Ce n'est jamais arrivé ici. C'est la première fois qu'on voit ça. Parce que les deux aspirants portent le même nom. Il faudra inscrire leurs adresses complètes sur les bulletins de vote. Le maire sortant habite la route du fleuve aux éboulements alors que le conseiller réside sur le chemin des Marguerites dans l'ancienne municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive, explique la directrice générale de la municipalité, Linda Gauthier. J'ai dit aux candidats que c'était à eux de faire leur part durant la campagne pour s'assurer d'être reconnus par leur adresse. J'ai également indiqué aux scrutateurs qu'ils auraient certainement des questions la journée du vote, poursuit-elle. Comme les candidats sont normalement classés par ordre alphabétique sur les bulletins de vote, il faudra aussi effectuer vendredi ou lundi un tirage au sort afin de déterminer lequel des deux Pierre Tremblay aura l'honneur de figurer en premier sur la liste le 5 novembre. Originaire de Sherbrooke et installé aux éboulements depuis 2010, le maire sortant a déjà commencé sa campagne en installant des affiches électorales où son adresse est inscrite. « J'essaie d'être distinctif », déclare le maire Tremblay au Soleil, ajoutant qu'il mentionne son adresse à tous les électeurs qu'il rencontre. Heureusement qu'on habite dans deux secteurs distincts de la municipalité. Imaginez si on était tous les deux sur la rue du fleuve. Le conseiller Pierre Tremblay, qui a été maire de Saint-Joseph-de-la-Rive avant la fusion municipale de 2001, indique pour sa part qu'il aurait bien aimé que les photos des candidats puissent figurer sur les bulletins de vote, ce qui est cependant interdit par la loi. « Nous nous en remettrons alors à l'adresse. J'insiste toujours que je suis celui du chemin des Marguerites. Heureusement, je suis bien connu puisque je suis né ici et que ma famille possède l'auberge Beau Séjour depuis 100 ans », explique le prétendant à la mairie. Celui-ci ne sait pas trop quoi penser du tirage au sort qui servira à déterminer l'ordre des candidats sur le bulletin de vote. « Je ne sais pas vraiment si ça aura un impact avec les électeurs », déclare-t-il. Le conseiller ajoute que leurs noms ont beau être le même, lui et le maire ne peuvent pas être plus différents. « Je ne m'entends pas bien avec lui, c'est pour ça que je me lance. Lui, il est plutôt individualiste et manque de transparence », critique-t-il. Ce n'est pas la première fois que deux candidats portant exactement le même nom se présentent dans une même municipalité. En 2013, deux Stéphane Beaulieu se sont présentés dans deux districts électoraux différents, mais tous les deux dans l'équipe du candidat à la mairie Robert Bordelot à Laval. Les deux ont cependant été battus. En 2011, deux candidats de Terre-Neuve aux élections fédérales portaient presque le même nom, Jerry Byrne, un ancien libéral député provincial de Corner Brook, contestait alors le poste de Jerry Byrne, un conservateur qui se présentait dans St. John East. Voilà. Alors, ce qu'on peut recommander aux électeurs des éboulements, c'est de lire leur bulletin jusqu'à la fin et de ne pas voter pour le premier Pierre Tremblay qu'ils vont rencontrer, ou peut-être le deuxième. Enfin, c'est votre choix.
Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she tells me, don't worry about your size. She said, boys, I got little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said, boys, like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm...
All about that bass, Scott Bradley, Postmodern Jukebox.
L'heure est venue de voir grand. Voici les nouvelles internationales. On commence tout de suite avec le plus médiatisé des prix Nobel, le prix Nobel de la paix, qui est remis cette année à la campagne antinucléaire ICAN. C'est Pierre-Henri Dehaye de l'Agence France-Presse qui nous l'apprend. Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, connue sous son acronyme anglais ICAN, armes de destruction massive au cœur de vives tensions avec l'Iran et la Corée du Nord. 72 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, ce Nobel distingue une coalition d'organismes non gouvernementaux qui a poussé à l'adoption cette année d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique, mais envoie aussi un message aux puissances nucléaires pour qu'elles entament des négociations sérieuses en vue d'éliminer leur arsenal. Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées et ce risque est plus élevé qu'il ne l'a jamais été depuis longtemps, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen. Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires et le danger que plus de pays se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord, a-t-elle ajouté. Regroupant plusieurs centaines d'ONG, l'ICAN s'est mobilisé pour le traité d'interdiction de l'arme atomique adopté par 122 pays le 7 juillet à l'ONU. Ce texte pose pour la première fois l'interdiction de développer, stocker ou menacer d'utiliser l'arme atomique. Sa portée devrait cependant rester essentiellement symbolique puisque les puissances nucléaires ont toutes refusé d'y adhérer. L'OTAN l'a condamné en invoquant notamment la grave menace nord-coréenne. Ce Nobel survient alors que le président Trump doit certifier avant le 15 octobre auprès du Congrès que Téhéran respecte les engagements pris dans le cadre de l'accord historique de 2015. Celui-ci impose de strictes restrictions au programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions. Selon le Washington Post, il aurait décidé de ne pas le certifier, ouvrant la voie à une réimposition de sanctions. « Nous ne taclons personne avec ce prix », a souligné Mme Reiss-Andersen à la question de savoir si le Nobel était une critique adressée au président Trump. « L'accord est un embarras pour Washington et l'un des pires auxquels les États-Unis aient jamais participé », affirmait Donald Trump le 19 septembre à la tribune de l'ONU. Les diplomates s'inquiètent des répercussions négatives d'une volte-face américaine sur ce dossier, alors que la communauté internationale espère encore faire revenir la Corée du Nord à la table des négociations pour lui faire renoncer à ses propres ambitions nucléaires. Ces dernières semaines ont été rythmées par une spirale d'échanges belliqueux entre le président américain et le leader coréen Kim Jong-un, après le sixième essai nucléaire de Pyongyang le 3 septembre et des tirs de missiles. Donald Trump, qui a menacé la Corée du Nord d'une destruction totale, a qualifié dimanche les négociations de « perte de temps ». Depuis sa création en 2007, l'ICAN fait valoir que le recours aux armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques, ce qui rend indispensable leur élimination. La campagne est soutenue par de nombreux militants de base, mais aussi par d'anciens prix Nobel tels que Desmond Tutu et le Dalai Lama, et d'autres personnalités comme Yoko Ono et Martin Sheen. Bien que la quantité d'ogives ait fondu en 30 ans, elle est passée d'environ 64 000 en 86 à un peu plus de 9 000 en 2017, selon le Bulletin of the Atomic Scientists, le BAS. Le nombre de pays détenteurs a augmenté. Ils sont aujourd'hui 9 à posséder de telles armes de destruction massive, États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël. Et si ça peut finir de vous inquiéter, sachez que hier, Donald Trump recevait son état-major à la Maison-Blanche et il a déclaré à la presse que c'était le calme avant la tempête. En Catalogne, les procédures judiciaires se poursuivent contre les nationalistes catalans à l'origine du référendum de dimanche. Cependant, ils ne seront pas incarcérés, ce que nous apprend l'agence France-Presse. Le chef de la police catalane et les dirigeants des mouvements séparatistes catalans entendus vendredi à Madrid pour sédition sont sortis libres du tribunal, le parquet n'ayant pas requis leur placement en détention selon une source judiciaire. Aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été imposée selon une porte-parole de l'Audience nationale. Le tribunal où était entendu le chef de la police, Josep Luis Trapero, Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, qui restent inculpés. Teresa Laplana, l'adjointe du chef de la police, également poursuivie, a été entendue par vidéoconférence. le chef de la puissante Association nationale catalane, l'ANC, Jordi Sánchez, a souligné que son groupe ne reconnaissait pas la compétence de ce tribunal et estimait n'avoir commis aucun délit. La justice reproche aux quatre inculpés de n'avoir pas évité, voire d'être directement responsables des troubles ayant suivi l'arrestation des organisateurs présumés du référendum les 20 et 21 septembre à Barcelone. Des gardes civils avaient été empêchés de quitter le bâtiment qu'ils avaient réquisitionné et des leaders des associations séparatistes avaient tenu un meeting devant les locaux installés sur les voitures de la garde civile. Celle-ci avait en outre été endommagée et recouverte d'autocollants séparatistes. Culture. L'agence France-Presse nous apprend que Michel Tremblay est le lauréat du prix Prince Pierre de Monaco. Figure marquante de la littérature francophone québécoise, l'écrivain et dramaturge québécois Michel Tremblay a reçu jeudi le prestigieux prix Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre. Considéré comme le père du théâtre québécois, Michel Tremblay, 75 ans, est également conteur, adaptateur, traducteur, scénariste, parolier, librettiste et metteur en scène. Adepte du « mentir vrai », Michel Tremblay, pour qui la vie est trop plate pour qu'on la décrive telle qu'elle, a toujours accordé un rôle majeur à l'imaginaire dans son œuvre. Il a imposé dans ses pièces l'usage de la langue parlée de Montréal, le joual, parfois considéré à tort comme du mauvais français. Auteur prolifique, il a signé 26 pièces de théâtre, traduites en plus de 26 langues, 3 comédies musicales, 11 romans, 1 recueil de contes, 3 recueils de nouvelles, 7 scénarios de films, 17 traductions et adaptations et un livret d'opéra. Lauréat de plus d'une trentaine de prix littéraires, Michel Tremblay a constitué la principale inspiration de plusieurs écrivains et dramaturges québécois. Créé en 1951, le prix littéraire Prince Pierre de Monaco honore chaque année un écrivain d'expression française pour l'ensemble de son œuvre. Il est doté de 15 000 euros, 22 000 $. Le prix de la découverte, qui récompense un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction, a été attribué à la romancière Blandine Raquel, 26 ans, pour son livre « L'abandon des prétentions » chez Fayard. Ce prix est également doté d'une bourse, celle-ci de 12 000 euros. Le coup de cœur des lycéens, décerné par les lycéens de la Principauté de Monaco, a été remis à Gilles Marchand pour une bourse 100 personnes aux Forges de Vulcain. Ce dernier prix est également doté d'une bourse de 6 000 euros. L'an dernier, le prix littéraire Prince Pierre de Monaco avait été attribué au poète franco-syrien Adonis. On reste en France, mais aussi avec des artistes québécois. Circopolis à Paris, départ réussi pour le Cirque Éloise, ce que nous rapporte Caroline Vigeant dans le Journal de Montréal. Circopolis du Cirque Éloise a trouvé un terreau fertile en France depuis longtemps. Or, s'il a pris l'affiche dans plus d'une trentaine de villes, il ne s'était jamais arrêté à Paris avant jeudi, là pourtant où il a ravi jusqu'à l'ovation. La troupe montréalaise marque ainsi d'un grand coup le début de son partenariat de 5 ans avec le 13e Art, le théâtre de Juste pour rire dans la ville Lumière, où ses créations s'installeront notamment chaque année en décembre. Dehors sur la rive gauche, le temps était gris en ce soir de première assortie à la ville-usine inspirée des films futuristes Metropolis de Fritz Lang et de Brazil de Terry Gilliam, qui nous attendaient à l'intérieur projetés en arrière-plan. Pris dans l'engrenage de roues mécaniques et aliéné par une bureaucratie aux tâches répétitives, les 14 artistes sur scène, d'abord comme robotisés, n'ont pas mis de temps à conquérir la salle. Il a suffi que la fantaisie s'en mêle pour aussitôt émerveiller et transformer le moindre geste en mouvement improbable, comme cette ballerine tournoyant sur elle-même à la roue cire ou encore cet acrobate qui, dans un numéro de main à main, marche dans les airs avec grâce, appuyant chaque enjambée d'un grand écart. Si la finesse et la fluidité dans l'exécution des contorsionnistes, enroulés dans une corde ou suspendus à un trapèze, ont donné lieu à des applaudissements bien nourris, il en a été tout autant pour ces instants à la fois clownesques et poétiques, notamment lorsqu'Ashley Carr, vedette de la production depuis le tout début, fait la cour à une robe rouge accrochée à un porte-manteau. Progressivement libérés de leur complet, les rendant si uniformes, les athlètes ont tour à tour apporté leur couleur au tableau que Jeannot Pinchot a mis en scène avec le danseur et chorégraphe Dave Saint-Pierre. Tandis qu'on a été fasciné par la dextérité à la roue allemande, on a retenu notre souffle durant le numéro de mât chinois, puis spontanément battu la cadence durant une chorégraphie combinant habilement danse et jonglerie. D'ailleurs, Éloise a fait de la multidisciplinarité de ses talents sa signature, et le spectacle en résidence au 13e art jusqu'au 29 octobre en propose une cargaison. Carla Bruni, de retour avec des reprises en anglais, ce que rapporte Sean Tandon de l'agence France Presse. L'italien, sa langue maternelle, le français, sa langue du quotidien, et l'anglais, celle qu'elle a choisie pour son dernier album, French Touch. Après 4 ans d'absence, Carla Bruni revient pour charmer le public anglophone avec des reprises des AC/DC, des Clash ou encore des Rolling Stones. L'anglais a un rythme et un temps que n'ont pas les langues latines. C'est la langue naturelle pour chanter, estime la chanteuse de 49 ans établie à une terrasse d'un boutique-hôtel à Manhattan. En 2007, Carla Bruni avait déjà chanté dans la langue de Shakespeare dans son deuxième opus, No Promises, qui contenait des poèmes mis en musique. Son 4e album studio, qui sort vendredi, ne répond pas à une logique précise. « J'ai fait toutes ces reprises dans la bonne humeur et également avec une grande modestie, sauf l'ancienne top modèle. » Pour French Touch, Carla Bruni s'est entourée du producteur canadien David Foster, à l'origine de nombreux succès d'artistes comme Céline Dion, le groupe Chicago ou encore le chanteur italien Andrea Bocelli. De politique, il n'est guère question dans son disque, sauf très à la marge. Quand elle reprend le succès « Enjoy the Silence » de Depeche Mode, l'ancienne première dame dit espérer plus de calme dans un monde chaotique sans plus de référence à l'actualité. Elle livre surtout une version plus intime que le style électronique de l'original, joint à plein de sa voix légèrement voilée. D'autres reprises incluent Jimmy Jazz, un classique du groupe britannique The Clash que Carla Bruni dit avoir voulu orienter dans une direction féminine. Au rayon des surprises, le goût de Carla Bruni pour la musique country, très populaire aux États-Unis. L'interprète de Quelqu'un m'a dit apporte une sensualité à Crazy de Patsy Cline, un classique du genre. Pour moi, le country, c'est le blues blanc, confie-t-elle. Le romancier Kazuo Ishiguro reçoit le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise a souligné l'intégrité de cet auteur fasciné par la mémoire et les manipulations, un texte de Fabien Deglise paru dans Le Devoir. Sa prophétie vient étrangement de se réaliser. En décembre dernier, dans les pages du quotidien The Guardian, le romancier britannique d'origine japonaise Kazuo Ishiguro s'est montré lucide face à un monde en mutation qui, sous l'effet de la révolution sociale et technologique en cours, serait sur le point, selon lui, de faire apparaître des humains supérieurs à d'autres. L'article parlait de manipulation génétique et sondait leurs conséquences sur les valeurs fondamentales de l'humanité. Jeudi, l'auteur des Vestiges du jour, Remain of the Day, prix Booker en 1990, n'a finalement pas eu besoin de technologie ni d'édition de son génome pour devenir plus que ce qu'il était déjà, simplement de l'Académie suédoise qui, depuis Stockholm, lui a décerné le prix Nobel de littérature QV 2017. Elle l'a qualifié au passage d'écrivain d'une très grande intégrité, qui a révélé dans des romans d'une grande force émotionnelle l'abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans le monde, a dit la secrétaire perpétuelle de la prestigieuse organisation Sarah Danius. Kazuo Ishiguro succède ainsi à Bob Dylan, qui l'an dernier a été exposé à la même reconnaissance, mais aussi à Svetlana Alexievitch, Patrick Modiano, Alice Munro et aux 110 autres nobilisés avant lui, honorés depuis 1901. Courte pause et on passe aux nouvelles régionales. On s'en va tout de suite à Québec, dans le soleil, où on apprend que l'accès à un médecin de famille, eh bien, ça pourrait être un objectif atteint pour Gaétan Barrette. C'est un texte d'Élisabeth Fleury. Alors que le taux d'inscription à un médecin de famille se situe à seulement 76 % à moins de 3 mois de l'échéance du 31 décembre 2017, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se dit toujours confiant que la cible de 85 % sera atteinte d'ici la fin de l'année. Au cours d'un bref entretien avec Le Soleil jeudi, le ministre Barrette a indiqué que pour lui, c'est le statu quo et que la loi 20 et ses pénalités pourraient s'appliquer au 1er janvier 2018 si les médecins n'ont pas inscrit 85 % de la population. Relancé sur son ouverture à permettre aux médecins de procéder à la préinscription de patients, c'est-à-dire inscrire des patients en bonne santé tout de suite pour les voir ensuite plus tard, pour vider plus rapidement le guichet d'accès et atteindre la cible autrement inatteignable, le ministre a réitéré qu'il s'agissait d'une proposition de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. C'est à elle de faire la preuve qu'il s'agit d'une bonne option, a dit le ministre de la Santé, tout en répétant que sa position à lui n'avait pas changé. Les paramètres sont intacts. Je suis dans une situation de statu quo. Il n'y a rien de changé, a simplement dit le ministre. Le mois dernier, alors qu'il présenta à ses membres l'entente de rémunération conclue avec Québec, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le Dr Louis Godin, aurait convenu que la cible d'inscription à un médecin de famille ne sera pas atteinte au 31 décembre 2017, nous a-t-on rapporté. Le Dr Godin aurait également mentionné que si des pénalités devaient être appliquées en vertu de la loi 20, les sommes resteraient dans l'enveloppe globale gérée par la Fédération, puisque celle-ci est fermée. Selon le Dr Godin, le gouvernement n'aurait ainsi plus le bénéfice budgétaire avec la loi 20. Les deux parties auraient convenu de se rasseoir ensemble en décembre pour faire le point sur la situation, selon ce qu'il a été possible d'apprendre. À la Fédération des médecins omnipraticiens, on affirme avoir toujours su que l'objectif de 85 % était ambitieux. Il est effectivement possible qu'on soit à court de quelques mois dans l'atteinte de cet objectif, a convenu par courriel le porte-parole de la Fédération, Jean-Pierre Dion. En conférence de presse jeudi matin, la députée Diane Lamarre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, a réclamé le texte complet détaillé de l'entente signée à la fin août par la Fédération et le Conseil du Trésor. Cette entente prévoit notamment une hausse de rémunération de 10 % sur 3 ans. Depuis des années, ce gouvernement-là nous a habitués à faire des chèques en blanc, à ne pas s'assurer d'avoir des garanties qui permettent à la population d'être sûre qu'elle va avoir les services auxquels elle a droit, a plaidé la députée de Taillon, qui déplore que les ententes signées entre Québec et ses médecins soient secrètes. On a 255 millions sur la table, c'est ça qui a été consenti, et on n'a pas de garantie sur le retour de l'investissement, a dénoncé Mme Lamarre. Dans la région de Trois-Rivières, le scandale qui retient l'attention, c'est la prière, plus particulièrement une prière assez spéciale, vous allez voir, Saint-Tite. Une prière qui ne dérange pas tant que ça, un texte de Paul Vermeau-Desroches. L'intervention du mouvement laïque québécois auprès du gouvernement Couillard afin de s'insurger contre la récitation de la prière du cowboy lors du dernier festival western de Saint-Tite par la ministre Julie Boulet a reçu un accueil plutôt mitigé dans le milieu. Alors que les commentaires sur les réseaux sociaux concernant cette nouvelle ont explosé durant la journée de jeudi, certains défenseurs de la laïcité de l'État ont pour leur part choisi de se tenir loin du débat. C'est d'ailleurs le cas de l'auteur Jamila Benhabib qui dit suivre cette affaire avec beaucoup de distance. Je ne me sens pas concerné par ce débat et j'estime qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants présentement sur lesquels nous devrions concentrer nos énergies. Ma crainte est également que ça puisse semer une grande confusion sur la laïcité, constate Mme Benhabib. Rappelons que le mouvement laïque a interpellé le gouvernement Couillard en raison de la traditionnelle prière du cow-boy qui fut prononcée le 13 septembre dernier par la ministre Julie Boulay lors du Festival Western de Saint-Tite en ouverture du rodéo Bullfighting. Alors que le gouvernement du Québec s'apprête à adopter dans les prochains jours le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État, la ministre du Tourisme et responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay, se livre à des récitations de prières dans des activités touristiques et de loisirs. Elle a accepté de se livrer à une activité religieuse dans le cadre de ses fonctions ministérielles, a notamment dénoncé le mouvement laïque des Québécois. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral, le mot que vous ne voulez plus entendre, c'est le mot « phénix ». Et vous allez voir pourquoi. La complexité de phénix a été sous-estimée, rapporte Paul Gaboury dans les pages du droit. Le fait d'avoir sous-estimé la complexité du projet de transformation du système de paye phénix a conduit à son échec, conclut un rapport rendu public jeudi par le Conseil du Trésor. Réalisé par la firme Goss Gilroy, au coût de 165 000 $, l'étude avait été commandée par le Conseil du Trésor afin de tirer des leçons de l'échec de la gestion et de la mise en œuvre de l'initiative de transformation de l'administration de la paye. L'étude a couvert les activités de 2008 à avril 2016, soit jusqu'à la mise en œuvre de la deuxième phase du projet, et est basée sur les commentaires de plus de 100 participants de 39 ministères et organismes et l'examen de plusieurs documents de diverses sources. Si l'initiative de transformation de la paye avait été gérée en tenant compte de la vaste portée de la transformation qui ne se limitait pas simplement à un remplacement de système ou à la réinstallation d'employés, on aurait pu établir et suivre de près les principes de définition, de gouvernance et de surveillance de cette initiative, lit-on dans le rapport. Lors de l'approbation du projet en 2009, le gouvernement n'avait jamais entrepris de transformation d'une telle ampleur. Or, il s'est avéré que le système à haut risque a été lancé sans qu'une feuille de route pour atténuer les risques n'ait été précisée, que les tests nécessaires démontrant qu'il pouvait fonctionner pour l'ensemble des ministères n'aient été faits dans un contexte où la réduction des effectifs et les économies étaient déjà budgétées. Et voilà pourquoi bon nombre de fonctionnaires fédéraux ont soit été trop payés, pas assez, voire même pas du tout pendant des mois. Et ça continue encore aujourd'hui. Voilà l'indicatif qui nous indique que cette émission tire déjà à sa fin. Lundi, nous ferons relâche pour l'Action de grâce. Je vous donne rendez-vous mardi. Et si vous êtes vraiment patient, Hélène, elle revient mercredi. À plus tard.